le gouvernement n'a qu'une seule obsession, cacher cette terrible réalité et faire taire toutes les voix qui s'y opposent.
Parlons-en un instant.
On entend souvent dire « notre civilisation, notre société, elle va droit dans le mur ».
Et c'est le moment de subir des électrochocs.
Qu'est-ce qu'on construit? Si ça s'effondre, il faut construire et aller voir ce qui peut émerger, les jeunes pousses de ce qui émerge suite à l'effondrement de cet arbre géant.
Comptoir du monde.
Vous êtes bien sur Radio Balade 101.8 et vous partagez ce moment avec le compagnon idéal pour refaire le monde, la merveilleuse clientèle du Café de Fa. Bonsoir. Au service ce soir, c'est Aurélien, mais pour faire tenir un comptoir, il faut deux piliers. Bonsoir Nicolas.
Bonjour tout le monde.
À tes côtés, Nico, nos deux invités du soir, Michel Potel et Odile Calvet de l'association Aude Réfugiés Solidarité.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui, nous parlons du travail de cette association, et du travail qu'elle mène auprès des exilés en Haute-Vallée de l'Aude. Alors, nous tenons immédiatement à couper court à tout débat sur la légitimité de ces personnes à trouver refuge dans notre belle région. La question n'est pas de savoir si l'on a accueille ou pas, mais comment on accueille au mieux. Comment est-ce qu'on fait pour qu'une somme de drames individuels devienne finalement une opportunité collective de se rencontrer, de construire ensemble une société juste et agréable? Parce que personne ne quitte son pays de gaieté de cœur, et nous avons la place, surtout dans notre région rurale, dépeuplée, pour accueillir de nouveaux habitants, pour peu qu'on leur donne les mêmes droits qu'aux autres. Voilà, ça nous permettra de sortir un instant la tête du contexte politique nauséabond qui accompagne l'arrivée de chaque nouvelle élection présidentielle. Et avant de commencer, je voulais aussi faire une petite remarque lexicale. Nous utiliserons, autant que faire se peut, le terme d'exil et d'exilé, parce que ça recouvre toutes les situations. Par exemple, la fuite d'un pays en guerre, mais aussi la migration économique ou l'exil politique dû à une persécution d'une personne en particulier. Donc, excusez-nous par avance si on utilise le mot « réfugié » pour désigner l'ensemble de ces exilés, mais ce mot a l'avantage de mettre en avant d'une part la légitimité, d'autre part l'urgence qu'il y a à accueillir ces personnes, même si, de fait, il ne concerne que ceux qui ont obtenu ce statut de protection qui est établi par la Convention de Genève. Voilà. Ces précautions étant prises, les amis, vous pouvez vous installer confortablement au comptoir. Ça commence.
Comptoir du monde.
Odile et Michel, vous êtes bénévoles au sein de l'association Aude Réfugiés Solidarité. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous raconter sur l'histoire de cette association? Comment est-ce qu'elle est née, Michel?
Elle est née fin 2015, quand les premiers réfugiés sont arrivés à Esperanza, direct de Calais. Ils sont arrivés en pleine nuit, ils étaient 13, ils étaient soudanais. C'est en fait la Fédération Audoise des œuvres laïques qui s'occupe d'eux. Mais à l'époque, ils n'avaient pas de bureau sur place. Donc il s'est trouvé qu'on a vu errer dans les rues de Esperanza 13 gars en sandales et en t-shirt. Le lendemain, il allait faire très froid. Et il y a eu une ou deux personnes qui ont décidé d'aller frapper à leur porte.
Ils étaient 18 sur Quillan, qui sont arrivés en pleine nuit et qui ont été repérés par une amie à nous qui habitait dans les mêmes bâtiments que là où ils devaient être hébergés et qui nous a dit « il y a des gens qui arrivent de Calais ». Donc très vite, on s'est contacté par mail et on a fait une réunion où on était une cinquantaine de personnes en se demandant comment on pourrait être des bons voisins.
Et donc, d'où viennent les personnes que vous accueillez à l'association?
Au début, effectivement, c'était quand on a vidé la jungle de Calais, donc il y avait beaucoup, beaucoup de Soudanais et d'autres, beaucoup d'Érythréens aussi. Actuellement, donc, 7 ans après, ça a beaucoup bougé. On a reçu des gens du Kurdistan irakien, des gens d'Érythrée, des gens d'Éthiopie, des Somaliens, des Afghans, des Kurdes turcs, des Géorgiens, des Tchétchènes, des gens de l'Azerbaïdjan. Hop, j'arrive pas à le dire. voilà, donc il y a eu des gens un peu de partout qui sont passés ou qui sont encore par ici. Actuellement, ils sont à peu près 60 entre Quillan et Esperanza, donc accueillis dans des bâtiments qui ont été loués par la Fédération des œuvres laïques, qui est mandatée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour faire tout ce qui est démarches juridiques hébergement et travail de leur dossier et aussi tout ce qui est médical.
Donc ça, c'était voilà, l'une des premières questions que je me posais. C'est quoi la démarche quand quelqu'un arrive de son pays en guerre là, et qu'il finit par passer la frontière, je ne sais pas, en Espagne par exemple, enfin d'Espagne à la France ou au Pertus, ou, voilà, pas très loin. Quand on arrive sur le territoire, à qui il faut s'adresser? Est-ce qu'il y a un guichet unique un peu pour ces demandeurs d'asile, pour ces personnes qui fuient leur pays?
Les premiers réfugiés, en fait, le mot magique, c'était Calais. Donc, ils allaient sur Calais parce que les copains leur disaient Calais. Mais maintenant, il y a beaucoup plus de monde, donc ils se passent le message. Et effectivement, ils vont sur un guichet unique, soit sur Paris, soit sur Toulouse, soit sur Montpellier. Ceux qu'on accueille par ici, ils sont passés souvent à Paris, à Toulouse, à Montpellier. Et ils ont donc été orientés au bout d'un moment où on leur propose soit de rester dans la rue et de s'occuper de leurs papiers avec une petite indemnité qui semble énorme pour eux, c'est 400 euros, soit d'être pris en charge et logé avec une indemnité moins grande, une allocation moins grande qui est que de 200 euros, mais ils sont logés et accompagnés un peu plus dans leur démarche administrative, médicale, etc.
Alors comment ça se fait que ces personnes arrivent sur notre territoire, là, sur la Haute-Vallée de l'Aude, qui est un territoire rural dans lequel il n'y a pas forcément beaucoup de travail? Voilà, comment est-ce qu'ils arrivent ici?
Ben, en fait, quand ils vont faire leur demande d'asile au guichet unique, c'est l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFI. Donc il y a l'OFI à Montpellier, par exemple, et c'est l'OFI qui décide de là où ils vont être hébergés, donc dans tout le territoire d'Occitanie. Comme ici, sur Esperanza et sur Quillan, la FAOL propose un certain nombre d'hébergements, l'OFI est au courant et c'est l'OFI qui décide de là où on va les envoyer. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des fois où on leur disait « Non, c'est pas loin d'une ville ». Ils arrivaient ici et ils étaient à une heure de Carcassonne, et pour eux, une Carcassonne, c'est même pas une ville. La ville, c'est Toulouse, quoi. Donc, il y en a qui restaient pas. Au bout de 3 jours, il y en avait quelques-uns qui repartaient. Et puis, il y en a qui restent. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils arrivent ici.
Et alors, j'imagine que dans un premier temps, il faut répondre à la satisfaction des besoins de base, manger, se nourrir, se vêtir. Est-ce que les 200 euros dont parlait Odile, ça suffit pour ça? Et puis d'ailleurs, ils ne les ont pas forcément immédiatement.
Ils les ont assez rapidement.
Ils ont au bout d'une quinzaine de jours. Alors après, pour manger, on a un partenariat avec les Restos du Cœur. On a fait beaucoup d'apports alimentaires, notamment pendant le Covid, parce que les Restos du Cœur étaient fermés. Les Restos du Cœur sont fermés aussi l'été, parce que l'été, on ne mange pas, c'est bien connu. On a beaucoup travaillé autour de l'apport alimentaire. Moi, je me suis investie au Restos du Cœur et je me suis rendu compte que la nourriture, c'est une nourriture très basique. Donc, on a beaucoup travaillé avec les agriculteurs du Pays de Sceaux qui nous donnent énormément de légumes. Donc, je descends tous les jeudis à peu près 300 kilos de légumes bio et qui sont distribués soit par le canal du Resto du Cœur quand il est ouvert, soit au coffre de ma voiture. Voilà. Ensuite, pour ce qui est vêtements, etc., on a beaucoup de dons d'un peu tout le monde. On redistribue selon leurs besoins. Leurs besoins, c'est surtout de la téléphonie, parce qu'ils ont besoin de communiquer avec leurs parents, puis c'est leur bureau, ils ont tous leurs papiers à l'intérieur. Donc ça leur fait un budget assez important. Et après, leur besoin, c'est de rencontrer des gens et de ne pas être regardés comme des personnes étranges.
Donc pour ce qui est de trouver un logement ensuite, comment ça se passe? Parce que les personnes que vous accueillez sont d'abord des demandeurs d'asile, c'est ça? Donc ils sont dans le cadre d'une procédure et en attente d'un statut qui leur permettra ensuite ou de pouvoir travailler en France ou qui décidera qu'ils ne sont pas officiellement réfugiés et qu'ils doivent rentrer chez eux. Pendant ce temps-là, pendant le moment où est instruite leur demande d'asile, qu'est-ce qu'il se passe et à quoi ils ont droit exactement? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Est-ce qu'ils peuvent louer un appartement? Est-ce qu'ils peuvent travailler? Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là, Michel?
C'est l'OFI qui les envoie ici et ils sont logés dans les appartements de la Jonquière à Carcassonne, à Quillan et à Esperanza, les immeubles qui longent la route. Ils sont en général entre 3 voire 4 par appartement et ils n'ont rien à payer. Les fluides sont payés, c'est-à-dire l'électricité, l'eau. Donc pour l'hébergement, ça va. Après, comme disait Odile, pour tout ce qui est nourriture, ils vont au Resto du Cœur. Ils ont leurs 200 euros chacun. Et avec ça, ils doivent se débrouiller.
C'est beaucoup d'hommes. En majorité, il y a beaucoup d'hommes. Il n'y a que 3 familles actuellement. Une maman célibataire avec 2 enfants et 2 familles qui ont 3 enfants. Mais c'est beaucoup d'hommes qui ont une famille dans Somalie, au Kurdistan, au Soudan, en Éthiopie. Donc, dans leurs 200 euros, il y en a bien la moitié qui repart au pays parce qu'il faut faire vivre 6, 5, 4 enfants, une grand-mère, etc.
Du coup, cette situation-là, elle peut durer un certain temps. D'être en attente de sa réponse par l'OFPRA, puis éventuellement de faire appel de la décision, si on a été débouté de son droit, enfin qu'on n'a pas été reconnu comme étant possiblement réfugié. Et je crois que c'est des démarches qui peuvent aller jusqu'à 3, 4 ans. Et pendant ce temps-là, on est bien d'accord, il n'y a pas de droit au travail en fait effectif, puisque c'est un statut qui n'autorise pas le travail. Est-ce que je me trompe ?
Alors, dans les textes, théoriquement, au bout de 6 mois sur le territoire, ils devraient pouvoir avoir le droit de travailler, mais c'est à la discrétion des préfets. Et actuellement, il n'y a aucun préfet de France qui donne ce droit-là sous prétexte qu'il y a trop de chômage. Donc, ces gens-là n'ont pas le droit de travailler. Ils attendent effectivement pendant plus de 2 ans. Donc, la première instruction, c'est à l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides, qui est à Paris, où ils vont présenter leur histoire, leur quest, ils disent, ou leur... Donc, ils présentent leur histoire et là, il y a du personnel administratif français qui juge si leur demande est recevable ou pas. Donc, ils sont à peu près 50% à avoir accès à un statut de réfugié après ce premier barrage qui est l'OFPRA. Enfin, moi, j'appelle ça un barrage parce que c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Si par hasard, on ne les a pas... on n'en a pas accédé à leur demande d'asile, ils peuvent faire un recours à la Cour nationale du droit d'asile. Donc ça prend encore 1, 2, 3 ans encore. Donc ils sont encore en centre d'hébergement par ici ou dans d'autres villes en France, c'est pareil. Et là, à la Cour nationale du droit d'asile, ils se retrouvent devant des juges qui vont juger de leur cas. Ils sont devant 4 personnes qui vont éplucher tout leur dossier. Et si on accède à leur demande et qu'ils ont un statut de réfugié, ils vont rentrer dans ce qu'on appelle le droit commun, c'est-à-dire qu'ils deviennent comme tout un chacun, comme vous, comme moi. Ils vont pouvoir travailler, ils vont pouvoir avoir des APL, accès à Pôle emploi, etc. Si on leur dit que non, on appelle ça des déboutés. Et les déboutés, c'est des gens qui reçoivent généralement très rapidement une OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire, qui n'est jamais vraiment mise à exécution. Quand elle est mise à exécution par les pouvoirs français, c'est généralement d'une manière assez musclée, puisqu'on a le cas d'une famille tchétchène qui s'est retrouvée du jour au lendemain, alors qu'ils ne savaient pas du tout ce qui allait leur arriver, dans un avion pour la Tchétchénie, en laissant toutes leurs affaires dans l'appartement à Quillan. Donc ça a été très... ça nous a beaucoup bousculés. Et eux, sûrement plus que nous. Et du coup, ils viennent remplir le flot des sans-papiers de France, qui sont une manne pour tous les entrepreneurs qui vont les employer. Actuellement, sur Paris, ça tourne entre 2 et 3 euros de l'heure, le travail d'un sans-papier.
Voilà la réalité. Merci Odile pour ces premiers éléments, pour ce cadre, ce contexte, et puis aussi pour ces éléments qui nous permettent de cerner déjà la démarche de l'association, la mission finalement de service public qu'elle s'est donnée. Et donc on se retrouve pour en apprendre davantage, mais d'abord on va écouter un petit appel de Tikenja Fakoli.
Au rêve. comme l'hiver. Et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe. On veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Nous sommes des milliers à vouloir comme vous venir sans rendez-vous. Nous voulons voyager et aussi travailler. Mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières.
Nous aussi on veut connaître la chance d'étudier, la chance de voir nos rêves se réaliser. Vous appelez liberté. On veut que nos familles ne manquent plus de rien. On veut avoir cette vie où l'on mange à sa faim. On veut quitter cette misère quotidienne pour de bon. On veut partir d'ici quand nous sommes tous en train de péter les plombs. Oh.
Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ni même une goutte de pluie, tout au fond du puits. En revant très vite sur le chemin de l'école, un beau jour il décide de prendre son envol.
Bah, c'est là où on le trouve le plus sympathique. C'est ça le café bien français. C'est là où on trouve beaucoup d'amitié.
Comme ici, par exemple.
Comme ici, par exemple, où on ne fait pas de différence ni pour l'un ni pour l'autre.
Radio Balade !
Et vous êtes de retour sur Radio Balade 101.8. Vous venez d'écouter Tikenja Fakoli. Vous êtes accoudé au comptoir du Monde. Vous partagez ce moment avec la belle clientèle du café de Fa. Et aujourd'hui, on parle de l'accueil des exilés en Haute-Vallée de l'Aude avec Michel Potel et Odile Calvé de l'association Aude Réfugiés Solidarité. Alors, je venais de dire quelque chose avant la pause musicale. Je venais de féliciter Odile pour la mission de service public que s'est donnée son association. Il y avait une petite précision à faire quand même là-dessus. On n'est pas sur une délégation de service public. On est bien sur du pur bénévolat.
Oui, on s'est juste posé comme des bons voisins et on a pensé que tendre la main à des gens qui venaient là, ben, ça pouvait être bien pour nous parce qu'on en sort plein de bonnes choses, nous. Et puis pour eux aussi, de pas arriver dans un pays où personne va les regarder, quoi. On a l'expérience de nos propres enfants qui, quand ils vont dans un pays étranger, eux, sans visa, sans problème, sans etc., sont accueillis partout. Et donc, bon, voilà, c'était un petit peu comme ça qu'on s'est investi dans cet accueil.
Et donc la mobilisation des bénévoles de l'association donc, permet de gérer l'urgence de certaines situations en assurant la satisfaction des besoins de base. Mais il s'agit aussi de penser sur le long terme, de permettre à ces personnes de s'insérer sur un territoire. Qu'est-ce que vous mettez en place pour permettre à ces exilés de se faire des amis, de trouver du travail, d'avoir des activités sportives, culturelles? Michel, peut-être?
Alors... Il s'est vite avéré que la première chose dont ils avaient besoin et où ils étaient demandeurs, c'était d'apprendre la langue. Pas tous, hein, mais quand même. Donc ça, on a mis ça en place assez rapidement. Ça s'est assez bien passé. Et aujourd'hui, on est à peu près 9 personnes entre Quillan et Esperanza qui donnent des cours de français. Voilà. Après... On a essayé de les sortir de chez eux, donc de les emmener soit à des fêtes, soit à des concerts de musique, soit l'été aller se baigner au lac. Et on a aussi vu qu'ils avaient certains voulaient faire du sport, donc et certains se sont inscrits à des clubs de sport.
Ils ont fait du ski, on les a amenés l'an dernier avec la... Parce qu'on travaille vraiment en accord avec les travailleurs sociaux là, qui sont avec eux, qu'on s'entend très bien, les bénévoles et les professionnels de l'accueil. Donc l'an dernier, on a fait une super rando dans la montagne où ils étaient, 25. On avait 25 paires de raquettes. Moi, j'ai fait pas mal de rando avec des amis qui sont guides de montagne au-dessus, à côté de Fourmiguières, et qui nous ont amenés. Donc, il y a un refuge qui nous a accueillis gratuitement. Qu'est-ce qu'on a fait? On est allé à la plage aussi pendant une semaine. On a fait un petit séjour parce qu'il y a une famille qui nous a prêté une maison. Qu'est-ce qu'on fait? On en fait des choses. Pour les enfants, on leur paye le centre de loisirs. Donc, ils sont allés au centre de loisirs, soit à Esperanza, soit à Quillan, soit sur le pays de Sceaux, puisqu'on avait fait des séjours maman, qui se reposaient pendant que les enfants étaient en centre de loisirs. On leur a payé des gants de boxe. Et puis, aussi, on a travaillé sur leur mobilité avec des dons de vélos qui sont arrangés gracieusement par Monsieur Georges. Et qui est ici présent, et donc ils ont à peu près tous une bicyclette, et ça c'est super. Voilà, et après, dans les personnes qui donnent les cours de français régulièrement, il y a donc Michel, il y a une autre Odile que moi, il y a Manik, il y a Dominique, il y a Marc, il y a Marie-Noël, Jocelyne. Voilà, qui viennent à peu près, ça va de Kirbajou, Belvis, Grane, enfin voilà, les profs entre guillemets, parce qu'on se dit prof à moitié, quoi, c'est des moments de français. On vient d'un peu partout et ils ont donc possibilité d'aller au moins 2 ou 3 cours semaine en français.
Nico ?
Ouais, je voulais rebondir parce qu'aujourd'hui j'ai écouté une interview de Cédric Héroux, qui donc est. Devenu célèbre malgré lui parce qu'il a fait quand même un certain nombre de gardes à vue et autres séjours devant le tribunal pour avoir aidé aussi des personnes qui venaient sur son exploitation agricole notamment.
C'est en Vallée de la
Roya, donc
la frontière
d'Italie,
franco-italienne.
Voilà. Et qui disait, qui rendait hommage à tous les bénévoles comme vous qui faites le travail et qui disait aussi quelque chose par rapport au contexte actuel. C'est-à-dire la vague qui va arriver, donc des personnes qui vont venir d'Ukraine, là, suite aux événements, à la guerre. Il disait que ça prenait aussi quand même pas que des bénévoles, cet accueil. En fait, c'était aussi, il y avait aussi une nécessité d'avoir un accompagnement vraiment professionnel. Et il mettait le doigt sur quelque chose qui est en train de se mettre en place, comme on voit que le gouvernement est en train d'essayer de faire en sorte que ça bouge un petit peu dans les... différents départements de France. Il y a aussi des appels que lui trouvait un peu précipités à la générosité privée, etc. Ouvrez votre maison et tout. Et il avait cette réflexion que je trouvais intéressante, et je ne sais pas si vous pourrez rebondir dessus, en disant qu'en fait, la générosité privée, si elle n'est pas organisée, ça peut être aussi quelque chose de délicat, quoi, à la fois pour les gens qui accueillent et puis pour ceux qui viennent. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous nous avez dit que vous étiez directement dans un petit réseau quoi, de personnes? Et comment vous avez bâti ça? C'était des amis? C'était des gens qui se connaissaient avant? Ou ça s'est venu en fait par publicité, bouche à oreille, locale? Comment ça s'est passé un peu?
Il y a eu des réunions. Les premiers qui sont arrivés à Esperanza, les premières personnes qui sont allées les voir ont vite été complètement submergées par les demandes. Donc ils ont fait appel à leurs amis. Les amis en ont parlé à leurs amis et voilà, on s'est réunis et c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Mmh. On a découvert des gens qu'on ne connaissait pas. Moi, je ne connaissais pas Odile avant.
Moi, j'arrivais dans la région, donc je ne connaissais personne.
Donc, c'est aussi un moyen de refaire du lien en plus entre les habitants ouais. D'une même
voilà.
région.
Et, ouais. pour l'accueil de familles ou de gens isolés, il y a des gens qui font ça ici. Qui accueillent des sans-papiers, qui accueillent des gens qui sont perdus aussi. Il faut savoir, ce qui est compliqué ici, c'est que tant qu'on n'habite pas sur la ligne Quillan-Carcassonne, ça veut dire que ces gens-là sont complètement isolés. Ils ne peuvent pas prendre de bus de leur propre volonté pour aller voir ailleurs. Donc c'est assez difficile de faire un accueil dans des endroits complètement isolés. Ça arrive. Nous, ce qu'on a fait, c'est de temps en temps. Moi, je sais que, par exemple, pendant 2 mois, j'avais accueilli 5 gars qui allaient faire les vendanges à côté de chez moi. Donc là, c'était possible. Mais sur du long terme, c'est compliqué. Enfin, moi, c'est ce que je pense, en tout cas.
Donc là, par exemple, il y a des besoins, par exemple, en covoiturage. Ça, c'est fréquent pour les gens que vous accueillez. Et peut-être que c'est un des moyens aussi d'aider l'association.
Ah, c'est sûr, parce que bon, bah, déjà moi j'habite sur le Pays de Sceaux, donc ça me fait pas mal de kilomètres, et faire 4 ou 5 allers-retours sur Quillan pour transporter les personnes qui vont en montagne, c'est voilà. Donc c'est vrai que si on a grandi notre réseau, si on sait qu'il y a des gens qui sont disponibles pour faire des covoiturages, ça peut être très chouette. Ne serait-ce que pour les amener à une fête, pour les amener à une pièce de théâtre, des choses comme ça, quoi.
Et aussi, vous pouvez compter sur des partenariats, aussi sur la générosité de structures du territoire. Notamment, vous avez un partenariat avec le cinéma à Quillan, avec le ciné-club, qui vous permet d'emmener les gens gratuitement, c'est ça?
Oui, le cinéma et le ciné-club. Le cinéma aussi. Hein.
On ne les emmène pas, ils y vont tout seuls d'ailleurs, hein, parce qu'ils peuvent... Fait que s'ils ont envie d'aller au cinéma, ils savent que pour eux, la place est offerte quoi, hein, par Cinéode. Et bon, après, des fois, on y va souvent avec eux, mais ils peuvent y aller tout seuls. On a aussi on a eu un partenariat pendant un moment avec la Clarande. On a eu des partenariats avec des bars ou des petites choses qui se font avec des cafés suspendus, des choses comme ça, où ils ont pu boire un coup parce que les personnes qui étaient là en payaient deux et en offraient un. On a un partenariat avec la mairie de Quillan qui nous prête une salle pour qu'on puisse faire des cours. Et on a un partenariat avec la FAOL qui nous prête une salle aussi où on peut faire nos cours de français.
Et n'oublions pas les quatre murs qui nous accueillent ce soir, puisque vous avez aussi commencé un cycle de repas ici au Café de Fa tous les deuxièmes mercredis du mois. C'est ça, non, Michel?
Jusqu'en avril. Ouais. On va encore faire au mois d'avril, après on ne sait pas.
Alors quel est le concept? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe?
En fait, nous on trouve de notre côté des personnes migrantes qui savent bien cuisiner. Et on leur propose de venir faire le repas ici. Donc il y a eu des repas afghans, des repas turcs, kurdes. Au début de l'année, il y avait eu un mix avec somaliens, érythréens, afghans. Voilà. Donc en général, on cuisine là-bas, dans les appartements, et on vient ici avec toutes nos gamelles. Et en fait, on fait une petite publicité. Et jusqu'à maintenant, on a toujours rempli. Voilà.
Oui, apparemment, c'est difficile de trouver des places le jour même pour le repas. Il faut réserver la veille au moins.
Dès que c'est annoncé, la semaine d'avant.
D'accord.
Ouais. Pas la dernière fois, mais l'avant-dernière fois, c'était plein le lendemain de l'annonce et j'ai refusé 40 personnes.
D'accord,
donc, voilà.
On a fait aussi un repas pendant le festival du film soudanais. Donc, il y a eu un break entre les deux films et c'est des Soudanais qui ont fait un repas client là, à la Cigale où il y avait on était une cinquantaine de personnes qui mangeaient.
Et donc, j'imagine que les recettes des repas vont ou directement aux personnes ou à la structure. Comment ça se passe exactement?
Normalement, les recettes vont à l'association, oui. Pour notre association, parce qu'on a vraiment des gros besoins financiers et que ça nous permet de payer les gants de boxe, le kimono, les centres de loisirs, de l'aide alimentaire, des vêtements pour certains qui arrivent sans rien. La semaine dernière, il y a deux Afghans là, qui sont frères, qui sont arrivés. Ils avaient sur eux un pantalon de pyjama, un pull et un petit sac à dos. Ils avaient leurs papiers, quoi. Ils étaient en tongs. Donc voilà, je leur ai acheté des godasses parce que j'en avais pas là dans mes réserves. Voilà, donc il y a des moments où il y a des urgences de ce genre, quoi.
Merci beaucoup pour ces détails. Il est temps pour nous de faire une nouvelle pause avant d'aller, par exemple, remplir nos verres au comptoir en écoutant un morceau approprié pour l'occasion.
Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. T'es bienvenu chez moi, chez moi c'est ton toit. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. T'es bienvenu chez moi, yeah. Chez moi c'est ton toit. Un jour j'ai quitté mon village, je suis parti sans alibi. J'ai traversé plein de rivages, j'ai vu les ruines de la Libye. On m'a dit aime ton Afrique, si tu t'en vas c'est que te lâche. Dans cette pauvreté démocratique, on ne vit que d'eau et de calash. Beaucoup de présidents africains ont la double nationalité. Pour un firangle qui pousse à la main, c'est à Paris qu'ils vont tous se soigner. Ah, eux. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. Et bienvenue chez moi, chez moi c'est ton toit. Je suis venu chez toi, j'ai fait comme chez moi. Et bienvenue chez moi, chez moi c'est ton toit. J'ai fui la politique et les moustiques, je traversais la Méditerranée. La crise n'est pas qu'économique, on se fait niquer depuis des années. Je préfère éviter les flics de la France que feinte les balles d'une guérilla. Sans papier, je tente ma chance. J'ai fait le choix de ne pas crever là. Chez moi, ça cultive le cacao sans connaître le goût du chocolat. C'est comme prendre une femme en cadeau sans que son père ne mange la cola. Ah, je suis venu chez toi, je fais comme chez moi. Et bienvenue chez moi, chez moi c'est ton toit. Je suis venu chez toi, je fais comme chez moi. T'es bienvenu chez moi, chez moi c'est ton toit. Tout le village a cotisé, dans mon dos je sens beaucoup de regards. Y'a pas d'eau, y'a pas d'électricité, les politiques n'ont aucun égard. Ma famille attend de moi, que j'économise pour le retour. Et beaucoup ne veulent pas de moi, ils veulent me foutre dans l'avion retour. Donc je kebab, je KFC, je travaille aux plaques sans me lasser. Je kebab, je KFC, et dans le métro je vais pioncer. Je kebab, je KFC, je travaille aux plaques sans me lasser. Je kebab, je KFC, et dans le métro je vais pioncer. Marie, je suis venu chez toi, je fais comme chez moi. Et bienvenue chez moi, chez moi c'est ton toit. Je suis venu chez toi, je fais comme chez moi. T'es bienvenu chez moi, chez moi c'est ton toit. Je kebab, je KFC, je travaille aux plaques sans me lasser. Je kebab, je KFC, et dans le métro je vais pioncer. Je kebab, je KFC, je travaille aux plaques sans me lasser. Je kebab, je KFC, et dans le métro je vais pioncer.
Oh là là, mais tout à fait, d'accord, il est dégueu votre café.
Je suis pas très fort en café.
Non, vous êtes pas très fort en café, non.
Du tout, du tout.
Non. Vous n'avez pas autre chose?
Comptoir. Du monde.
Vous êtes de retour sur Radio Balade 101.8 et vous venez d'écouter Bienvenue de Smarty. Nous sommes au comptoir du Café de Fa avec sa merveilleuse clientèle. Bonsoir. Et nous sommes aussi avec Michel et Odile de l'association Eau de Réfugiés Solidarité. Et je suis sûr, Michel et Odile, que vous pouvez compter en ce moment sur le soutien sans faille d'un de nos plus respectables représentants qui assurait encore ces dernières semaines, je cite, « Fidèle à sa tradition d'accueil, la France se tient prête ». Vous l'avez reconnu ? Ça m'étonnerait. Parce que c'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui... Eh oui, celui qui, il y a quelques mois encore, faisait lacérer les tentes des exilés Place de la République à Paris et dont la police transforme en enfer quotidien la vie de ceux qui stationnent à Calais en attendant de passer en Angleterre, entre autres. Revirement total de sa politique migratoire, donc, nous sommes maintenant prêts à accueillir 100 000 personnes sous le régime dit de protection temporaire qui ouvre le droit à une autorisation de séjour de 6 mois, à un hébergement immédiat, à des soins aussi immédiats, une allocation de demandeur d'asile avant même d'avoir à la formuler, et qui permet également de travailler légalement sans attendre les délais dont nous parlions tout à l'heure. Enfin, un accueil digne de ce nom. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, une guerre en Ukraine qui a fait en quelques semaines 2 millions de déplacés, et c'est à eux seuls que s'adresse ce dispositif exceptionnel. Quelle différence, me direz-vous, avec les conflits et les déplacés en Afghanistan, en Syrie, au Soudan, en Éthiopie ou en Érythrée ? Pourquoi ne peut-on pas accueillir tout le monde de cette manière ? Nico, tu t'es penché sur l'évolution des discours publics et tu peux peut-être nous fournir quelques explications.
Comme tu l'as précisé, hier, c'était des pincements de nez, des portes qui claquent, des polémiques à n'en plus finir et puis quelques coups de couteau dans les tentes. Et puis aujourd'hui, c'est oui, oui, il faut accueillir, aider, héberger au nom de la Convention de Genève. Donc tu as rappelé, hein, plus de 2 millions de personnes ont déjà fui l'Ukraine. C'est ce que dit le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et notre sinistre de l'intérieur nous parle donc de 100 000 personnes qui pourraient être hébergées. Et il assure même que l'État se prépare à en accueillir davantage. Alors ce sont principalement des femmes et des enfants. Et puis dans le champ politique, il n'y a plus guère que Éric Zemmour pour préférer les cantonner à la Pologne. Où en est-il ce personnage du coup ? Lui qui a dit vouloir un Poutine français, lui qui a été condamné en 2011 pour provocation à la discrimination raciale, et qui a plusieurs autres affaires du même tonneau en cours, toutes ces affaires étant reliées à son idéologie fétide. Il diffuse en effet l'idée d'un choc des civilisations, un affrontement inéluctable entre civilisation islamique et occidentale, sans jamais d'ailleurs préciser ce que ça veut dire qu'une civilisation. Donc ce concept foireux a fait la une des journaux, avec l'aide de grands médias hein, détenus par les usual suspects, hein, dont Bolloré Vincent, notre ami milliardaire, lui aussi dans le radar de la justice, d'ailleurs. Alors aujourd'hui, qu'en reste-t-il de cette théorie ? Elle est hors sujet, à l'ouest, on pourrait dire complètement naze, à côté de la plaque. Hein, un pays majoritairement orthodoxe qui envahit son voisin orthodoxe. Bah, on cherche le grand remplacement là-dedans. Alors, la bulle de haine entretenue par le candidat, plus proche de Gollum que de Gaulle, va-t-elle éclater ? Aujourd'hui, n'en déplaise aux allumés, il existe un élan de solidarité en faveur des réfugiés ukrainiens. Il y a des initiatives privées et institutionnelles. La SNCF propose, par exemple, de faire voyager gratuitement les réfugiés ukrainiens. Chaque département s'organise. La présidente du conseil départemental de l'Aude, Hélène Sandranier, le président de l'association des maires de l'Aude, Éric Ménassi, ainsi que les présidents des intercommunalités audoises ont signé un courrier adressé aux 433 communes du département afin de recenser les capacités d'accueil au niveau de chaque commune. Des formulaires sont également mis à la disposition des particuliers dans chaque mairie, ou seront. Et ils s'adressent à tous les privés susceptibles d'accueillir des réfugiés de la guerre d'Ukraine chez eux. Une démarche inédite de solidarité, selon les signataires, qui doit préparer le département à accueillir des réfugiés avec toute la dignité à laquelle ils ont droit, ce qui est bien normal. Alors, une fois reconnue cette nécessaire organisation, on peut s'empêcher de poser la question suivante. Et les autres ? Et les autres ? Parce que, qu'on comprenne bien, il y aurait donc des réfugiés à mettre en sécurité et pas d'autres ? Y a-t-il des réfugiés inutiles et d'autres utiles ? C'est une distinction que certains semblent proposer. Par exemple, un député du MoDem, Monsieur Bourlange, des Hauts-de-Seine, qui souligne sur une radio de grande écoute une sorte de différence essentielle. On aura une immigration de grande qualité, dit-il, dont on pourra tirer profit. Parce que les autres, ils ne sont pas d'assez bonne qualité. On ne peut pas assez en tirer profit. Ce monsieur Bourlange finissait probablement de digérer son repas offert par les contribuables quand il a cru bon d'avoir un trait d'esprit. Alors, d'un avis partagé, hein, il devrait se concentrer davantage sur sa digestion. Alors, moins utile, moins exploitable, plus exploitable, culturellement proche ou pas, comme s'il fallait dire accueil de réfugiés en parlant des Ukrainiens, mais crise des migrants si on évoque le sort des Irakiens, des Syriens ou des Afghans.
On va écouter, en fait, hein, pour se faire une idée, un extrait de Télé d'Info en continu dans lequel les éditorialistes et les représentants politiques livrent finalement le fond de leur pensée. Hein, c'est que, pour une fois, les réfugiés nous ressemblent.
On voit bien ce qu'il fuit et il n'est pas question de dire est-ce que vous êtes vraiment des réfugiés.
On est au 21e siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez.
Ça sera sans doute une immigration de grande qualité en revanche. Ce seront des intellectuels.
Parce que ce sont des Européens de culture, même si on n'est pas dans l'Union européenne, on est avec une population qui est très proche, très voisine.
On ne parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leurs voitures, qui ressemblent à nos voitures.
Il y a une différence entre des Ukrainiens qui, encore une fois, participent de notre espace civilisationnel avec des populations qui appartiennent à d'autres civilisations.
On aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit.
Nous ne sommes pas face à des migrants qui vont passer dans une logique d'immigration.
Comptoir du monde.
C'est beau, la solidarité à géométrie variable, Nicolas.
Oui, c'est aussi ça, la France, malheureusement. Alors, les Ukrainiens sont des réfugiés, il n'y a aucun doute. Hein. Qui peut donc encore croire après ça, que les Afghans, les Syriens, les Irakiens soient des migrants, c'est-à-dire essentiellement qu'ils partent pour chercher du travail qui ferait défaut. Ont-ils étudié dans un abri anti-bombardement, autour d'une tasse de thé vide parce qu'il n'y a plus d'eau depuis des jours? Ont-ils sondé ainsi, confortablement installés près des corps sans vie parfois de leurs voisins, le marché de l'emploi français, se connectant à Pôle emploi depuis Alep en ruine, Kaboul en flammes ou Bagdad détruite? Se sont-ils dit « Tiens, je ferais bien un petit retour en France, moi. Il semble qu'il manque de bras dans la manutention et puis ça me fera voir du pays parce qu'en ce moment, c'est pas foufou, je suis un peu en burn-out. » Comme personne ne s'imagine ce qu'est la guerre, certains n'essaient même pas de comprendre. Le pire truc qui puisse arriver, est-ce de ne plus avoir de Wi-Fi ou de ne plus être connecté à Instagram, que la voiture tombe en rade, que mon chien ait mangé ma poubelle? Ben non, le pire truc qui puisse arriver, en fait, si on y réfléchit un tout petit peu, c'est de partir de chez soi sans le vouloir, avec ou sans sa famille, ce qui est encore plus dur. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix, et c'est ce que nous rappellent en ce moment les images des Ukrainiens et Ukrainiennes qui fuient les zones de combat. Et ils partent, même en étant conscients des dangers du parcours, même en ne sachant pas où ils vont atterrir ni pour combien de temps. Alors, petite projection dans le futur. Dans son dernier rapport, le GIEC, Groupement International d'études du climat, estime que plus de la moitié de la population mondiale est d'ores et déjà très vulnérable aux impacts du réchauffement climatique. Il y aura inévitablement des conflits, des déplacés. L'ONU parle à horizon 2050 de 200 millions de réfugiés climatiques dans le monde entier. Alors, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y aura aussi des trains gratuits pour tous les millions de futurs réfugiés climatiques? En fait, comment est-ce qu'on s'organise? Un journaliste italien appelé Fabrizio Gatti a écrit autour de ce sujet, le sujet des migrations, des transports et des parcours souvent difficiles des personnes qui doivent quitter leur pays. C'est un livre-enquête que je vous conseille vivement, ça s'appelle Bilal sur la route des clandestins. Ça se passe sur le continent africain, il suit le parcours de migrants en quête d'Europe. De Dakar à l'île de Lampedusa, en passant par le désert et les grandes villes des États africains traversées avec eux, sur des camions de fortune, puisqu'il se met lui-même dans le rôle d'un exilé, sous une fausse identité. Il livre de précises descriptions des situations vécues par ses héros. Certains deviennent esclaves, beaucoup meurent ou disparaissent, et ceux qui passent tombent également entre les mains d'organisations responsables de trafic humain. Il en arrive à la conclusion que c'est la fermeture des frontières des pays européens qui fait prospérer ces organisations criminelles. Alors, je vous en cite un court extrait, ça se passe au début de l'ouvrage. Fabrizio Gatti prend l'avion pour se rendre à Dakar. L'avion s'apprête à décoller quand, soudain, un passager s'est mis à hurler. Il a tenté de retirer son t-shirt bleu avec l'inscription « Italie ». L'hôtesse continuait à l'inviter à attacher sa ceinture de sécurité et lui, il était sur le point d'enlever celle de son pantalon. Un grand gaillard d'une trentaine d'années va savoir depuis combien de temps il avait quitté l'Afrique. Il le retournait à l'envoyeur, accompagné d'un document d'identification remis au commandant, comme pour les transports de valeur ou les animaux en cage embarqués dans la soute. Dans le monopoly de sa vie, il avait fini par piocher l'imprévu, ce coup perdant que représente un arrêté d'expulsion pour un immigré. Son entrée dans la longue cabine de l'avion a été le seul moment où il a pris conscience qu'il avait un pouvoir en Europe. Un avion entier, l'équipage, plus de 200 passagers. Le tout entre ses mains. Lui, il a compris. il a attendu. De sa place, il ne voyait pas les pilotes, mais il a deviné. Et quand le feu vert du décollage a été donné, il a joué sa dernière carte. « Ça suffit, reste tranquille, on te débarque !» hurle un agent au fond. En général, personne ne veut se retrouver en prison. Les citoyens respectueux de la loi ne le souhaitent pas, même le criminel le plus sanguinaire. Mais ce soir, le monde tourne à l'envers pour ce gars-là. Et il finit par obtenir gain de cause. Temps écoulé, 3h12. Tout le monde est content. Le concept d'autorité a été gratifié. Les passagers italiens applaudissent le policier. Le commandant peut de nouveau libérer la puissance des turbines. On part. Le coupable d'un tel outrage passera encore quelques jours en Italie, jusqu'à la prochaine tentative de rapatriement, voire la prochaine arrestation. Et pourtant, ce qui l'empêche de rester en Europe, c'est un bout de papier, 25 cm sur 15, une photo d'identité, quelques gouttes d'encre, un cachet. Dans l'Italie de la mafia, des corrompus et des corrupteurs devenus ministres et députés, de leur loi pro-voleur, malheur à l'étranger dépourvu de ce bout de papier. Mais combien a coûté l'esclandre de ce soir ? 3 agents en service de nuit, la voiture avec le gyrophare bleu sous la carlingue, un avion dont les turbines tournent au ralenti pendant 3 heures. Les heures sup pour les pilotes et l'équipage, le billet déjà payé, le juge qui instruira le procès, l'avocat d'office aux frais de l'État, la bureaucratie, les jours de cellule, les papiers pour le nouveau rapatriement et peut-être un autre vol qu'il faudra bloquer à terre. Ça coûterait beaucoup moins cher de délivrer un permis de séjour. Mais la politique a besoin de précieux esclandres. Sinon, comment justifierait-elle son consensus ?
Le dernier pour la route.
Radio Balade.
Et nous venons d'entrer dans les 10 dernières minutes de l'émission. Merci Nicolas, c'est le moment pour nous où la clientèle du Café de Fa prend la parole elle aussi. Et parmi les personnes présentes ce soir, je sais qu'il y a des curieux, des curieuses, il y a des motivés, des militantes, des militants. Et je ne doute pas qu'il y a quelques questions pour vous, Odile et Michel. On va commencer par la mienne, le temps que quelqu'un se lève de lui-même et vienne s'asseoir avec nous. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut faire en tant que particulier aujourd'hui pour participer à votre effort. Qu'est-ce qu'on peut donner, outre du temps, de l'argent, des vêtements ? C'est quoi le plus nécessaire en ce moment, Odile ?
Pour l'instant, ils sont assez plombés par le Covid, tous, parce que pour eux, ça résonne encore plus que pour nous, parce que c'est un double peine, quoi. Enfin, ils sont 2 fois isolés. Après, ce dont ils ont besoin, c'est effectivement d'amis. Mais ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Dans l'association, on aurait besoin de personnes qui viennent discuter avec eux, de faire des petits moments de français. Donc ça serait bienvenu. On a besoin de bicyclettes. On a besoin de gens qui nous disent dans telle fête, dans tel rassemblement, on pourrait inviter X personnes et on est prêt à venir les chercher. On a besoin de sous, beaucoup. Et ça demande une grande disponibilité parce que c'est des personnes qui ont toute une histoire et qui sont extrêmement accueillants. Mais en face, il faut être costaud, quoi, parce qu'on reçoit des histoires qui ne sont pas simples.
Donc des oreilles aussi, des personnes qui viennent écouter ces histoires d'exil, c'est aussi ça, tout simplement de la présence aussi de l'humanité.
Michel, ce qu'il y a, c'est que toute la bande, là, autant qu'on est, on est toutes des vieilles dames, quoi. Et ils sont tous très jeunes et ils auraient besoin de rencontrer des gens plus jeunes que nous. Alors ça, c'est pas facile, quoi. Parce que les jeunes, ils travaillent, ils ont leur famille et ils sont pas très disponibles. Alors, il y a quelque temps, il y avait eu comme ça quelques-uns d'entre eux qui s'étaient mis à jouer au foot avec des gens de Luxeuil. Ça s'était fait entre eux comme ça, mais c'était bien. Et je pense que c'est ça aussi qu'ils ont besoin, c'est de rencontrer des gens un peu, au moins de leur tranche d'âge. Ça leur ferait beaucoup de bien. Et c'est vrai que maintenant que les activités culturelles vont reprendre, la difficulté, c'est ça. C'est moi, j'ai une voiture, j'ai 4 places. Quand on a, ne serait-ce que l'été, par exemple, pour aller au lac, je suis obligée de dire, j'en prends 4. Je peux pas faire mieux. Et quand on va à un concert, par exemple, il y en a toujours 15 qui voudraient venir, mais voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'un peu difficile à mettre en place, mais c'est quelque chose qui serait bien de mettre en place. C'est-à-dire d'avoir des gens qui disent, nous, on te donne notre numéro de téléphone ou notre contact, notre mail. Et quand il y a des fêtes, tu envoies. Et éventuellement, on peut dire oui, on a de la place, on vient les chercher. Ce genre de choses.
Bon, le mot est peut-être passé. On va peut-être faire circuler une feuille à la fin de l'émission pour prendre les contacts des gens. Ça peut être intéressant. Alors, on a Caro qui s'est levé, qui est venu nous rejoindre pour poser sa question. Caro, on t'écoute.
Alors, bonsoir. Déjà, bravo pour ce que vous faites. Je pense que beaucoup de gens... moi, je suis un peu nouvelle dans la région, mais beaucoup de gens ne sont pas au courant et pourraient effectivement vous aider, justement, à connecter, à intégrer ces jeunes. Après, je voulais savoir, moi, est-ce que vous êtes pas un peu choquée de la différence de traitement entre, justement, ces migrants qui ont souffert les pires guerres atroces. On sait le million deux de morts en Irak, par exemple, pour des soi-disant armes de destruction massive qui n'ont jamais été découvertes. Bon, et là, on se retrouve en ce moment dans une propagande honteuse de l'OTAN pour nous dire, oui, le méchant Poutine, etc. Et parce que ils sont un peu plus blancs et blonds, donc il faut leur dérouler. Bon, bien sûr, mais il faudrait le faire avec tout le monde, quoi. Vous n'êtes pas un peu choqués de cette différence c'était ma question.
Odile.
D'abord, pour le bravo, c'est pas bravo, ça s'est fait un peu tout seul, et puis on reçoit beaucoup de ces rencontres. Donc c'est bravo parce qu'il faut tenir dans la durée, que des fois on est fatigué parce qu'on n'est pas toute jeune. Mais c'est bravo. Oui, peut-être que c'est bravo, mais c'est facile à faire, quoi. Si on s'y met, c'est facile. Après, par rapport à la différence de traitement, oui, effectivement, parce qu'on suit des personnes qui attendent des fois, parce qu'elles font des recours après, donc depuis 5, 6, 7 ans. Mais toutes seules, elles sont, enfin, tous, là, moi, je suis sur Facebook, parce que c'est comme ça qu'on communique, et ils postent tous des choses où ils sont scandalisés, quoi. Ils sont tous scandalisés. Là, ils ont tous pris une claque dans la figure. Et c'est très dur pour eux d'imaginer qu'ils sont des sous-hommes, en fait. Même s'ils perçoivent qu'ils le sont, parce qu'il y a des retours un peu depuis qu'ils voyagent comme ça. Mais là, ça s'est institutionnalisé et c'est vraiment pénible. Ce soir, il y en avait deux qui auraient pu venir, mais ils n'ont pas eu envie de venir.
Rétrospectivement, ils se rendent compte aussi que l'accueil qu'ils ont eu, en fait, il aurait pu être bien meilleur, qu'on a les moyens. On avait les moyens de, eux aussi, bien les accueillir. Et là, ils voient ces moyens déployés pour d'autres. Ça doit être pas facile à vivre pour eux au quotidien. Vous avez des retours, ils l'expriment de cette manière-là?
Très large. Oui, ils l'expriment comme ça. Il y en a qui font des petits dessins, ils font passer des tas de choses où ils sont effectivement dans la posture de celui qui attend béatement que l'État français veuille bien lui donner la protection, alors que les autres, ils passent la frontière et ils l'ont, quoi. Donc c'est très compliqué pour eux.
Il y a quand même, on peut aussi, j'espère qu'il y aura un côté positif qui est aussi que peut-être ça va ouvrir les yeux à certaines personnes qui jusque-là n'étaient pas touchées par ce genre d'histoire ou qui n'avaient même peut-être pas entendu parler ou pas voulu voir, parce que c'est difficile de ne pas en entendre parler quand même. Voilà, moi en tout cas, personnellement, j'espère que ça peut ouvrir des portes et faire venir peut-être d'autres personnes dans le genre d'activité d'aide aux autres, ou alors juste une ouverture, quoi. Ça viendra peut-être des Ukrainiens eux-mêmes ou des Ukrainiennes qui arrivent maintenant sur notre sol
de leur fait aussi. Ce qu'on réalise, c'est que la France est riche et capable d'accueillir. Donc ça, c'est génial. Et qu'il y ait ce mouvement de gens qui tout d'un coup ouvrent les yeux sur une situation, on peut imaginer qu'ils ouvrent leur regard un peu plus, qu'ils pensent qu'au Yémen, par exemple, il y a une guerre. Ah bon, il y a une guerre au Yémen, qu'en Somalie, il y a des chebabs qui tue à tour de bras des gens. Ah bon, il y a une guerre. Donc c'est vrai qu'il y a, le regard des personnes va s'ouvrir. Je l'espérais.
Dernière ou avant-dernière question, peut-être Georges vient de nous rejoindre. On t'écoute, Georges.
Oui, ben, Odile avait commencé mon intervention. Ouvrir les yeux, mais c'est tout simplement savoir que nous sommes responsables de cette migration. Tu as dit, ces guerres, nous les nourrissons, nous les avons créées en installant des dictateurs, notamment en les soutenant, en créant le chaos économique, en détruisant, en exportant nos produits, en cassant leur agriculture vivrière, comme on l'a fait depuis des années. Il y a aussi, bien sûr, le reste de la colonisation. Ensuite, bien sûr, en nous enrichissant, parce qu'on est riche, parce qu'on est quand même le troisième exportateur mondial d'armes. Donc tous ces pays, le Yémen, ils prennent sur la gueule grâce à nos armes, à nos riches qui possèdent, comme Dassault, nos grands médias, etc. Et etc., etc. Donc à partir du moment où on est responsable de cet état de fait, et demain on va l'être encore plus parce que là, en allant guerroyer ou contre la Russie, pas avoir trouvé de solution, eh bien maintenant ça va être la famine dans tous ces contrées-là parce qu'il n'y a plus de blé qui va venir de l'Ukraine. Enfin, on va vers des cataclysmes. Tout à l'heure, tu as parlé aussi de climat, tout ça. Mais enfin, on n'en a pas abordé, mais c'est les changements climatiques qui vont faire qu'on va avoir des exilés. Enfin. Voilà. Et à partir du moment où on est responsable, eh bien, on assume. On a assumé des thunes, on en a, puisqu'on va augmenter le budget de la défense. Ça va passer de 42 milliards, je ne sais pas combien, pour fabriquer des sous-marins nucléaires. Et encore, voilà, et continuer dans le nucléaire militaire, comme civil d'ailleurs. Donc voilà, l'excuse qu'il n'y a pas d'argent, c'est faux. Il y a de l'argent, bon, plus que raison. Quoi.
Merci, Georges.
Comptoir. Du monde.
Merci Odile et Michel hein, d'avoir été présentes avec nous ce soir. Est-ce qu'on a un moyen de vous joindre pour pouvoir participer à l'effort de votre association Aude Réfugiés Solidarité?
Ben là, ce soir, on fait passer une feuille.
Déjà.
Vous mettez vos adresses. Et après, le siège social de l'association, ben, je peux le dire, hein, c'est le 24 Barry de la Pause. 11 340 à Roquefeuille.
Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, un mail, une page Facebook où on peut vous attraper?
Pas de page Facebook, il y a un numéro de téléphone éventuellement, oui.
On t'écoute.
Le 06 71 02 87 89.
Merci beaucoup. Merci Nico aussi d'avoir remis les choses à leur place.
Merci à vous.
Et merci au Café de Fa de nous avoir accompagnés pendant une heure et d'avoir participé aussi à l'émission en posant des questions et en nous encourageant aussi. Les discussions vont sûrement continuer au comptoir et nous, on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Entre-temps, restez à l'écoute de Radio Balade et prenez soin de vous.
Thank you.